Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous, ici Camille Chai, vous écoutez Les passions de Camille et nos invités aujourd'hui. J'ai très hâte, en fait, de vous les présenter parce que ce sont deux artistes qui sont très talentueuses. Toutes les deux, elles ont une vie qui est très colorée. Ça, c'est le cas de le dire. Vous allez découvrir pourquoi. Mais nos deux invités inspirent et touchent les gens chacune à leur façon, autant à travers leurs œuvres que leur attitude de battante. Et nos deux invités sont aussi toutes les deux connues du grand public. J'ai le plaisir de vous présenter Rosalie Taillefer-Simard et Marisol Saint-Onge. Alors, on commence tout de suite avec ma première invitée qui est avec moi en studio et c'est Rosalie Taillefer-Simard.
Salut Camille!
Allô Rosalie!
C'est fun qu'on parle ensemble aujourd'hui!
Oui, je suis très contente. Merci d'avoir accepté déjà de faire cette entrevue avec moi puis de venir en studio.
Ah ben, tu sais combien ça me fait plaisir d'être là!
Oui! Parce que toi, Rosalie, tu viens de Laval, donc tu avais un peu de route à faire ce matin, mais tout s'est bien passé.
Tout s'est bien passé.
Génial. Et là, de toute façon, on est ensemble les deux pour avoir du plaisir aujourd'hui.
Ok, oui, c'est certain.
Mais ça, en fait, on n'a pas vraiment besoin de se le dire parce qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours ça qui se passe. Parce qu'en fait, Rosalie, bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas, tu évolues dans le domaine des arts visuels, donc tu fais plein de choses. Tu fais de la peinture, de la danse, de la télévision, tu es comédienne, animatrice, tu donnes des conférences. Donc, t'as pas le temps de t'ennuyer.
Non, vraiment pas. Puis j'aime ça, faire plein de choses différentes, parce que ça me permet aussi de toucher à plein de choses. Puis, tu sais, c'est pas une routine, hein? Puis ça change tout le temps, puis j'apprends tout le temps, tous les jours, là. Tu sais, j'apprends des nouvelles choses, puis c'est fantastique, je trouve, là. Tu sais, je suis contente de faire ça, je trouve.
Ben oui, puis c'est beau que t'aies cette reconnaissance-là. Puis même, c'est ce que j'ai découvert, moi, en fait, en te rencontrant pour la première fois, parce que toi et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années déjà sur le plateau de Deux filles le matin à TVA.
Oui, en 2017, je crois.
À peu près, oui, ça fait au moins 3 ans, sinon plus. mais on s'est rencontrés, puis on a à peu près le même âge, t'as 29 ans?
Oui.
Donc voilà, moi j'en ai 30, donc on dirait que quand on s'est rencontrés, on sentait qu'on était un peu comme des sœurs. Parce que oui, ça a tout de suite connecté, puis chacune, on a notre différence. Mais même si on n'a pas le même type de handicap, ben, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de choses en commun.
Oui, parce que quand on s'est rencontrés, je pense qu'on se comprenait sur plusieurs points. Puis, tu sais, on est deux filles qui aiment se passer dans le côté positif.
Oui.
Puis, tu sais, nous, là, on profite de la vie, on s'empêche pas de vivre, puis c'est ça qui est bon. Puis c'est pour ça qu'on s'est tellement bien entendu. Puis on a même fait des soupers après ensemble.
Oui, exactement. Mais Rosalie, j'ai envie que tu nous parles de ton quotidien, de ton histoire, en fait, de ton handicap.
Ah, mais c'est sûr que moi, je suis née avec une sourdité même à 100% sourde. Et c'est sûr que mes parents, ils ont eu Olivier en premier parce que mon frère, il a 2 ans plus vieux que moi. Et ça a été le premier enfant qui est né sourd dans la famille. Ben, c'est sûr, mes parents, ils ont trouvé ça très difficile au début parce que c'était inconnu, la sourdité. Fait qu'ils savaient pas trop, là, quoi faire et tout. Fait que là, ils ont tout fait leur possible pour s'informer, pour qu'on ait l'implant cochléaire. Puis l'implant cochléaire, on s'est opéré à l'Hôtel Dieu de Québec.
Okay.
À Québec. Puis là, honnêtement, là, c'est le meilleur choix que l'on fait parce que, tu sais, oui, il y avait des risques, tu sais, par rapport à l'opération, mais ils ont rassuré mes parents que d'un côté, ça va tellement les aider, tu sais, à travailler, à comprendre les personnes, à pouvoir communiquer aussi. Fait que ça, c'est une bonne chose, puis je regrette tellement pas. Puis merci à mes parents d'avoir pris cette décision-là. Puis non, je suis très contente parce que si j'enlève mon implant, oui, j'aime le silence. Parce que ça me permet de me reposer, de relaxer. C'est ça qui est vraiment un avantage.
Ben oui, t'as ça. Nous, on n'a pas cette chance-là.
Non, c'est ça. C'est vraiment le repos total. Mais de côté, j'adore avoir l'implant parce que je me dis, quand on a des conversations à plusieurs, c'est pour nous, c'est déjà difficile à suivre. Il faut lire sur les lèvres aussi pour confirmer ce qu'on entend. Parce que l'implant, oui, c'est génial, mais c'est pas encore parfait. Tu sais, il y a des petites choses comme tout ce qui est électronique.
Oui.
La radio, la télé, tout ça, il faut mettre des sous-titres. Fait que là, il faut juste arranger. Mais honnêtement, c'est comme la musique, par exemple, j'ai jamais connu ça.
Tu peux pas, même s'il y a de la musique qui joue, qu'est-ce que t'entends avec ton implant? C'est des sons?
Oui, c'est comme des sons, mais c'est rare que je reconnais une chanson.
Okay.
Faut que j'aie entendu la chanson, là, comme 1000 fois, puis là, je pense, oh, wow, je reconnais celle-là, mais c'est rare que je reconnais une chanson.
Okay.
Mais tout ça pour dire, ça manque pas, parce que j'ai jamais connu. C'est quoi entendre une belle musique?
Et voilà. Et puis, les personnes, quand on parle, est-ce que tu arrives à différencier nos voix ou est-ce que c'est une voix qui est un peu robotisée?
Bien, ce que je me dis, c'est comme toi, Camille, là.
Uh-huh.
Tu sais, j'entends ta voix, j'entends, tu sais, ton petit accent aussi, là, tu sais. Mais c'est un bel accent, là, que tu as. Même moi, j'en ai un avec ma surdité. Il y en a, viens-tu de Paris? Ou... Mais tout ça pour dire, c'est que j'entends voix de femme, voix d'homme, mais les hommes, ça se ressemble beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais moi, on dirait qu'à mon audition, j'ai plus de son aigu que de son grave. Mais ça dépend de chaque personne, de chaque audition.
Parce que toi, tu nous dis que t'es 100% sourde, donc tes deux oreilles n'entendent absolument rien.
Rien. Quand j'enlève mon implant, même si tu cries à côté, j'entends absolument rien, là. C'est
incroyable.
Silence total.
Incroyable.
C'est comme vous autres, là, vous allez à la bibliothèque, tu sais, pour que ça soit un silence.
Oui.
Mais moi, je trouve tellement pas que c'est silence. On entend l'air. On entend, tu sais, les gens qui ouvrent les livres, qui tournent les pages. On entend les chaises. Non,
est-ce que pour toi, ça peut paraître amplifié comme son, tous ces sons que tu me nommes de l'environnement sonore?
Oui. Exactement, on dirait que c'est tout amplifié, mais c'est pas désagréable pour moi, là, parce que je suis habituée à ces sons-là, mais c'est comme assez spécial.
Et puis, est-ce qu'il y a des sons que tu ne peux pas du tout entendre?
Des sons que je peux pas du tout entendre? Oui, ça arrive des fois que j'entends pas. Oui, c'est comme quand on cuisine, parce que moi j'habite avec mon copain dans ma maison maintenant.
Oui.
Et, tu sais, là, pour faire bouillir l'eau. Moi, là, faut que je surveille tout le temps parce que j'entends pas quand l'eau bout.
Ben oui.
Fait que je m'attends à mon chum, tu me diras, là, quand ça va bouillir. Au lieu d'attendre, puis de regarder l'eau pendant 10 minutes.
C'est ça. Mais donc, c'est un avantage, c'est pratique d'avoir un copain qui lui est entendant.
Ah, vraiment. Ah, c'est tellement pratique, puis ça me rassure. Parce que, tu sais, il y a des. Souvent, il y a des sons dans la maison, puis moi, là, je peux chercher pendant une heure parce que je sais pas d'où le son vient. Fait que là, je cherche, je me promène partout. Puis c'est ça qui fait que, ben, lui, il me rassure. Il dit, gars, Rodali, c'est juste la vaisselle qui fait le son.
Oh! Ah! Il n'y a plus de problème, tout va bien.
C'est ça.
Est-ce qu'avec ton implant, tu peux choisir l'intensité du volume?
Oui, je peux choisir, mais faut que j'aille voir mon audiologiste.
Ah, OK.
Puis elle peut ajuster le volume.
OK.
Oui,
mais tu peux pas le faire chez toi à la maison s'il y a un bruit qui est trop fort ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose qui est stable et constant.
Oui, mais ça existe, une petite manette que je peux avoir, mais il faut que je l'achète, la manette.
OK.
Puis c'est une petite manette que je peux baisser le volume si je veux.
Okay.
Mais ça se fait, c'est juste que moi, j'en ai pas besoin.
Non?
Parce que quand on fait les ajustements à chaque 2 ans, bien, elle ajuste tous les sons à chaque 2 ans.
Puis ça te convient très bien comme ça.
Très bien.
Et là, ton implant cochléaire... C'est parce que tu as été opéré, donc c'est quelque chose, c'est un petit objet qui est collé à ta tête derrière ton oreille, mais comment il tient?
Mais dans le fond, là, l'implant cochléaire, comment c'est fait, c'est qu'ils m'ont opéré. C'est à Québec, à l'hôpital, et c'est Dr. Ferron qui m'a opéré.
Mm-hmm.
Moi, je l'appelle mon magicien parce que...
c'est beau, il va être content.
Oui, il a tout, dans le fond, coupé, tout comme derrière l'oreille, la partie en arrière, comme un rectangle.
Mm-hmm.
Et il a tout ouvert, cette partie-là, et il a inséré dans l'oreille interne, dans la cochlée qu'on appelle. C'est comme un petit coquillage. Et là-dedans, il a mis des petits fils microscopiques, ça s'appelle les électrodes.
Mm-hmm.
Et là, ça part de là, et les électrodes, ils mettent après un aimant. Et après ça, ils referment le tout. Et la partie externe, c'est que mon implant cochléaire, ben, le si on peut dire, le moteur, avec l'antenne qui a l'aimant ici et il y a un aimant externe, en fait, pour que ça soit clair. Et là, quand l'aimant de mon implant connecte l'aimant à l'intérieur, là, c'est là que j'entends.
OK.
Parce que les électrodes qui sont dans la cochlée, c'est ça qui remplace mes sons qui me manquent, dans le fond. C'est comme tous les sons du plus aigu au plus grave. Oui.
C'est fascinant, c'est impressionnant la technologie à ce niveau-là parce que, comme tu dis, ça a carrément changé ta vie. Toi, de pouvoir être en contact et de parler avec les gens, eh ben, c'est tellement précieux.
Ah, vraiment? J'apprécie tellement. C'est même aujourd'hui, je te parle avec toi, Camille.
Mais
puis,
oui.
C'est super. C'est même d'entendre ta voix parce que quand là, on entend les voix, on sent l'émotion de la personne aussi. Ouais. Parce que, tu sais, quand on n'est pas content, on le sent dans la voix.
Oui.
T'sais, quand on est content, ben, t'sais, on le sent tout, là, tu sais. Fait que c'est important, le son, je trouve.
Mais t'as raison, mais là, tu me dis que t'as un aimant qui est collé, qui est derrière ta tête.
Oui.
Mais si tu passes à côté de, je sais pas moi, un aimant qu'on colle sur le frigidaire ou quoi que ce soit, est-ce qu'il t'est déjà arrivé des histoires où ton l'aimant se collait à quelque chose d'autre?
Oui, justement, j'étais allée à un souper, une de mes amies avec ses parents, et là, j'étais assise sur une chaise, parce que avant, là, il y a quelques années, la mode, c'était des chaises hautes,
oui.
Tu sais, le dossier,
oui.
Il était assez haut, et c'était en métal. Et là, je commençais à parler pendant le souper, et là, ding! Mon aimant colle sur la chaise, puis là, j'entendais plus.
C'est très cocasse comme situation. Et sur ces beaux rires, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
Parfait.
Because I'm happy.
Clap along if you feel like a room without.
c'était Happy de Pharrell Williams, une chanson qui m'inspire, Rosalie Taillefer-Simard, en te parlant, parce que c'est la joie, on est contente, on est heureuse, c'est ça que tu m'inspires, t'es toujours comme ça.
Ah, mais là, c'est toi qui m'inspires, Camille.
Rosalie, est-ce que t'aimerais avoir des enfants? Parce que tu m'as parlé de ton copain tout à l'heure, mais t'es avec lui depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
7 ans et demi.
Quand même, 7 ans et demi?
Oui.
Est-ce que la question d'avoir des enfants se pose ou non?
Ben en fait, oui, on veut des enfants, mais pas tout de suite.
OK.
Mettons à peu près dans 2 ans, à peu près, là,
okay.
C'est au moins. Puis, mais c'est ça, si on a des enfants, parce que lui est entendant, puis moi, j'ai sourde, là. Mm-hmm. Fait que, en fait, ils ont 1 chance sur 2 d'être sourds.
OK.
Fait qu'on n'a aucune idée. Ça va, on va voir. Mais en même temps, on s'est dit que ça nous dérange tellement pas. Tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec lui, je te demande tout de suite, est-ce que ça te dérangerait si tu as des enfants sourds, tu sais? Pour être sûr que s'il est même incompatible avec moi.
Oui, c'est important de savoir.
Fait que là, il a dit, mais pas du tout, si je t'aime. Pourquoi que j'accepterais pas d'avoir des enfants sourds, tu sais?
Oui.
Dans le fond, tu sais, on n'est pas inquiet. Parce que, tu sais, on sait où aller, c'est le chemin est tracé.
Oui, voilà.
Fait que, tu sais, ça va être plus simple que mes parents qui connaissaient pas du tout la société. Mais tout ça pour dire, c'est que, c'est drôle parce qu'il nous arrive souvent des choses hein, chez nous. C'est comme... parce que, vu que, tu sais, des fois, j'enlève mon implant à la maison.
Oui.
Tu sais, pour relaxer, je l'enlève. Et je cuisine ou je fais des choses. Et à un moment donné, ben là, je me dis, hey, mon chum, il va arriver bientôt du travail, tu sais, il sent bien, tu sais. Mais je cuisine, je suis concentrée dans mes affaires. Mais là, je pars à crier, là, parce qu'il se retrouve à côté de moi, puis je l'ai pas entendu marcher vers moi. Fait que c'est comme...
Est-ce que lui, il fait le saut aussi quand toi, tu cries?
Non, il fait pas de saut aussi.
Il est habitué.
Ah oh, oui, puis ça arrive à chaque semaine, ça.
Ah oui, quand même, c'est fréquent.
J'entends pas.
Puis tu me racontais une autre chose qui est fascinante, du fait que tu peux pas entendre si, par exemple, t'es dans, mettons, à la salle de bain, puis que lui veut rentrer ou quoi que ce soit, ou veut juste te parler, s'il cogne dans la porte... C'est pas suffisant, ou s'il te parle, tu l'entendras pas. Donc, qu'est-ce que vous faites pour communiquer?
Mais dans le fond, ce qu'on fait, là, il faut qu'il frappe dans le plancher avec son pied. Il donne des coups, là, boum, boum, boum. Fait que là, je sens la vibration. Fait que là, je peux y ouvrir la porte, là, puis c'est comme ça qu'on fait depuis toujours. Puis mes parents, avec mon frère
avec
aussi.
Olivier.
C'est dans la famille.
C'est génial parce que ton environnement, vous l'utilisez, je dirais, à 110%. Les vibrations, pour vous, vont être très importantes, alors que nous, on n'y porte pas nécessairement attention parce qu'on a la vue, l'ouïe, tout ça. Donc, c'est beau de voir cette capacité d'adaptation. Puis en parlant de ça, une chose dont je veux absolument qu'on parle, toi et moi, parce que tu as un projet qui est très récent en lien avec la pandémie qu'on vit actuellement.
Oui.
Il t'est arrivé une drôle d'expérience quand même quand t'es allée à une quincaillerie, entre autres.
Ah, j'en revenais pas, Camille. J'ai arrivé à la quincaillerie, je mettais un masque avec fenêtre, là,
oui.
Où est-ce qu'on voit les lèvres,
oui.
Là, à travers le masque. Et il était tout à fait conforme, le masque. Et là, j'arrive à la clinique de la quincaillerie et imagine... C'est fou, la madame, elle me refuse de rentrer dans la quincaillerie. Elle dit non, 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 vous pouvez pas rentrer avec ce masque, c'est vraiment pas accepté. Fait que là, ben, je suis retournée à ma voiture parce que j'en avais un autre, tu sais, puis je voulais vraiment faire mes commissions là.
Ben oui, il y a
pas le choix.
Oui.
Fait que là, mais c'est pour ça qu'après, j'ai fait une vidéo. Et,
sur Facebook que t'as publié.
Ouais, c'est ça. J'ai fait la vidéo pour mes amis. Qui sont comme moi, qui ont l'implant, parce qu'on se comprend, puis on rit de nos anecdotes, puis qui arrivent. Puis, tu sais, j'ai rien hein, contre cette madame-là à la quincaillerie, c'est juste un manque d'informations.
Oui.
Tu sais, des employés, puis c'est ça. Fait que là, mais en même temps, c'est une bonne chose que ça s'est passé, parce que on peut améliorer les choses. Fait que là, c'est pour ça que finalement, ben, ma vidéo, là, je pensais pas que ça allait se partager autant, puis merci au public. Vraiment, c'est très apprécié. Mais tout ça pour dire, c'est que ben là, j'ai eu l'idée de rencontrer Jean et Rodi.
Oui.
Et là, on a décidé de faire des masques ensemble avec une fenêtre, puis ça s'appelle Masque Sourire, justement, parce que, tu sais, toi puis moi, on aime sourire, hein?
Eh oui, ça, on se le cache pas. Je pense que tout le monde l'entend depuis le début de notre entrevue. Mais c'est un magnifique projet parce que Jean Héroldi, qui est designer, c'est génial que tu sois allé le voir. Et là, vous vendez ces masques-là. Ça fait depuis presque déjà un mois hein, qu'ils sont accessibles.
Mais...
ils se vendent de combien?
Ils se vendent 25 $ mais ça vient avec une pochette que okay. tu peux mettre le masque dedans, puis ça protège le plastique. Et les oreilles sont ajustables. Ben, c'est ça qui est super, parce qu'on peut ajuster les oreilles, puis c'est ça, puis c'est extraordinaire. Puis même ceux qui ont des implants oui. ou des appareils, puis que ça leur dérange d'avoir le cordon oui. là, derrière les oreilles, oui. mais on peut défaire les oreilles, là, oui. si on veut, défaire les nœuds, et on peut attacher justement la corde jusqu'en arrière de la tête. Fait comme ça, ils n'ont pas les cordons directement en arrière des appareils.
Ouais. C'est super. Ouais. Puis il y a $1 sur chaque masque vendu qui est reversé à la Fondation Sourdine qui est à Québec, dont tes parents sont les porte-parole aussi. Marie-Josée Taillefer, René Simard, ça, voilà, depuis qu'ils vous ont, ben, ils ont, je pense qu'ils sont des fiers porte-parole pour cette fondation-là, entre autres.
Oui, mais c'est ça, il était porte-parole pendant 5 ans, mais il les encourage toujours, ouais. cette fondation-là, puis moi aussi. Puis honnêtement, je trouve que c'est comme, tu sais, je trouve que l'école, c'est important pour les jeunes, parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on évolue. Ouais. Ben, c'est important d'encourager la Fondation Sourdine, puis c'est une école oraliste pour les enfants malentendants ou sourds à Québec. Mm-hmm. Fait que non, je suis très contente de donner $1 à cette fondation,
ben,
pour les encourager.
Bravo pour ce magnifique projet qui sert à beaucoup de personnes. Puis j'ai envie de te demander, parce que oui, t'es bien dans ta peau, tu vis très bien avec ça, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des moments qui peuvent te mettre en colère? Tu sais, des moments où, avec ta surdité, ben, c'est plus difficile.
Oui, mais c'est rare que ça m'arrive que je suis très en colère. Mm-hmm. Mais ce que je peux dire, Camille, là, c'est des fois, là, tu sais, on est plusieurs, hein. Tu sais, comme on rit, on a du fun, mais tu sais, des fois, là, on parle de, tu sais, à plusieurs, puis des fois, je comprends pas, tu sais, la conversation, parce que ça va trop vite. Ben, des fois, je parle la ligne. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, souvent, je demande à une personne, oh, c'est quoi qu'elle a dit, tu sais, pour me rattraper, tu sais, comme être comme tout le monde.
Ben oui, être incluse dans la discussion.
Ben, c'est ça, justement. Puis la personne qui me répond, ah, ben, laisse faire. Ben, ça, je comprends, regarde, peut-être que j'étais pas important, mais c'est juste que pour moi, c'est comme si, tu sais, oui, je suis sourde, là, mais j'ai le droit de comprendre, tu sais, comme tout le monde.
Bien sûr.
Ben, c'est ça, des fois, je trouve ça un peu, tu sais, dommage que ça arrive, mais tu sais, je veux pas répéter le monde non plus, tu sais, il y en a que ça leur dérange. Ouais. Et aussi, qu'est-ce qui me stresse, là, c'est de faire des téléphones. C'est bizarre, hein, mais de téléphoner, mettons, à des places comme Revenu du Canada, ou des places d'impôts, de la banque. C'est tellement compliqué. Puis de comprendre au téléphone, ça, c'est un stress pour moi. Puis souvent, mon copain est à côté de moi. Au cas où, si je comprends pas, je le passe. T'sais, parce que je dis, excusez-moi, je suis malentendante. Puis c'est important de dire hein, ce qu'on a. Je suis malentendante, je vais passer mon copain. Parce que t'sais, des fois, là, les gens ils parlent, mais il y a un bruit en arrière.
Oui.
Ou t'sais, c'est pas assez fort. Ou t'sais, ils parlent trop vite. Ou, fait, t'sais, ça dépend des personnes.
Et puis j'imagine que ça doit être fatigant.
Oui.
Pour toi, d'une journée, de parler au complet, tu dois être fatiguée à la fin d'une journée, non?
Ah, ben, mais t'sais... Surtout, là, t'sais, quand que c'est une grande journée, là, après, là, j'arrive chez nous, j'ai hâte, là, de dormir, de relaxer. Ça fait du bien, puis justement, j'enlève mon implant souvent quand j'arrive.
Je te comprends, puis tu me dis que ça te fait du bien, mais une autre chose qui te fait du bien, c'est de ta peinture, c'est l'art.
Ah, ben, mais moi, là, je peins, hein, j'ai étudié en visuel au Collège Jeannin-Gros, au Cégep, et à l'université à l'UQAM. Mm-hmm. J'ai fait mon bac en art aussi, et je fais des expos de temps en temps, et c'est très coloré, très punché, là, mes tableaux.
Qu'est-ce que tu peins?
Ben,
ça ressemble à quoi?
Ben, c'est ça. C'est la dernière expo que j'ai faite. J'étais seule audition. Ben, toutes mes toiles avaient un lien avec moi, mais c'était un peu abstrait, là. Tu sais, c'était fun, puis c'était très coloré. C'est comme, par exemple, j'ai fait un papillon, mais les ailes, c'était 2 oreilles, tout ça. Fait que ça a tout un lien avec l'audition. Mais la prochaine expo, je sais pas encore la date, mais j'aimerais ça que ça soit tous des masques. Ah, c'est oui. ça que je suis en train de faire, là, plein de masques. Mais c'est drôle parce que j'ai commencé à faire des masques avant la pandémie.
Ah oui?
Et là, tout à coup, là, je faisais des masques, c'est comme un don de hasard.
Mais oui, comme si t'as ressenti peut-être quelque chose en avance.
Ben, c'est ça!
C'est ton don d'artiste.
Oui!
Mais puis tu mets quand même en scène ta surdité. C'est quoi ton message que tu veux passer aux gens? Qu'est-ce que tu veux leur dévoiler de toi à travers tes peintures?
Mais à travers mes peintures, c'est moi, là, j'aime beaucoup jouer avec l'harmonie des couleurs. Puis, c'est moi, je veux apporter de la joie puis du bonheur. Parce que des fois, je trouve que chez soi, c'est pas très coloré. Puis, j'aimerais ça que ça ajoute une touche colorée, dans leur maison, puis que ça leur fasse sourire, tu sais, à chaque jour. C'est qu'ils voient la toile, puis que ça leur fait du bien. Oui.
Ben, puis, pour avoir vu tes toiles, elles sont franchement magnifiques. Et c'est vrai qu'elles sont... elles sont percutantes, j'ai envie de dire, parce que oui, on est happé, on est attiré par toutes les belles couleurs qui sont effectivement en harmonie, parce que tu laisses rien au hasard. Et si des personnes veulent voir ces toiles-là, est-ce qu'il y a un site ou une page Facebook qu'ils peuvent aller voir?
Oui, sur ma page Facebook, j'en ai mis plusieurs des toiles, et sinon, mon site web est en train de se faire.
Bon, ben, très bien.
Ça sent bien.
Puis pour terminer, Rosalie, ben où est-ce qu'on peut, parce que t'es comédienne, actrice, est-ce qu'il y a des émissions dans lesquelles on peut te voir en ce moment ou bientôt?
À l'automne, on va me voir dans l'émission LOL.
Mm-hmm.
C'est une émission parfaite pour moi et qui me ressemble parce que c'est pas une émission, hein, que c'est très visuel hein, comme émission. Fait que c'est ça, je fais des petits rôles et c'est ça, j'ai très hâte de voir parce que même moi, j'ai pas vu encore, mais on va tous le regarder ensemble puis je suis sûre que ça va être très bon.
Ben, on a très hâte de te voir. Puis je nomme aussi, tu as participé à Clash à Vrac. Tu fais des conférences aussi avec ta mère. Tu parles de ton vécu avec ta surdité. Donc, il y a plein de choses. On peut te voir aussi sur le site Ami Télé. Tu avais animé l'émission Mission Accessible. Bref, des tonnes de choses. Rosalie, merci infiniment pour cette belle entrevue et je te souhaite le meilleur pour tout ce qui t'attend.
Merci.
Merci, ma belle Rosalie. Et restez avec nous parce qu'après la pause, on reçoit notre deuxième invitée, Marisol Saint-Onge.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Oui, Camille Chaille ici avec vous encore pour la prochaine demi-heure et j'ai le grand plaisir de recevoir ma deuxième invitée aujourd'hui. Elle a 43 ans, elle est artiste peintre, conférencière et auteure. Elle est aussi la maman de deux jeunes garçons et c'est Marisol Saint-Onge. Bonjour Marisol.
Bonjour.
Enchantée.
Oui, bien sûr. Bonjour, bonjour.
Marisol, tu es de Trois-Rivières. Voilà,
en fait, je suis native de Sainte-Hyacinthe, mais j'habite Trois-Rivières depuis près de, même je pense, plus de 10 ans.
Ah oui, quand même. Et Marisol, donc...
Oui?
Oui, ben en fait, je suis tellement contente de te recevoir parce que moi, je fais ta connaissance en ce moment. Tu es passée aussi, il n'y a pas longtemps, à l'émission « Il y a du monde à Metz ».
Oui, une belle émission.
Oui, et ben en fait, tu nous racontes ton histoire puis j'ai envie que tu nous la partages encore plus en détail aujourd'hui.
Super, pas de problème, ça me fait plaisir.
Parce qu'on peut dire qu'en fait, t'as vécu une sorte de renaissance où c'est comme s'il y avait un avant et un après. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, exactement. Le avant et le après, c'est un très bon terme pour désigner ma vie. Puisqu'avant tout ça, moi, je suis née en parfaite santé, tous les membres à la bonne place, pendant 34 ans de ma vie, sans aucun trouble d'aucune sorte. Et j'ai contracté la bactérie mangeuse de chair. Et ça s'est fait là très rapidement. Moi, j'étais une personne en parfaite santé qui habituellement là, je me relevais rapidement là des petits virus, des petits microbes là, qui se promenaient un peu partout, surtout dans les écoles primaires, hein, puisque mes garçons étaient tout jeunes. À ce moment-là, il y avait 5 ans et 8 ans. Et ça a commencé par un banal mal de gorge, puisque c'est le streptocoque A là, qui est la bactérie responsable. Et dans des rares cas, heureusement, parce qu'avant moi, il y avait eu mon petit garçon et mon conjoint là, qui l'avaient attrapé. Mais eux ont pas compliqué, et contrairement à moi, ça a été très, très, très foudroyant. En fait, quand ça complique, et que ça dégénère, la bactérie Streptococcus A se transforme comme un peu Hulk, hein, qui devient méchant, et ça devient la bactérie mangeuse de chair. Donc, j'ai fait un choc septique. C'est ça qui m'a amené, en fait, d'urgence à l'hôpital parce que là, j'avais de la difficulté à respirer. Moi, de chez moi, je comprenais pas trop ce qui me passait. Là, j'avais eu le mal de gorge de la famille, mais là, en plus, j'avais comme des symptômes de gastro-entérite. C'est ce que j'ai cru parce que, bon, c'était pas la première gastro qui entrait chez nous. Puis, j'ai pris mon mal en patience, mais je n'avais pas réalisé que c'était justement là, la complication qui donnait les vomissements et tous ces symptômes-là. Donc, ça a pris du temps, ça a pris 4 jours avant que j'aille à l'urgence, parce que là, ça a été là, la difficulté à respirer. Et là, ben, bien évidemment, là, ça a sonné des lumières comme quoi c'était pas tout à fait normal ce qui se passait. Et là, tout a déboulé. Moi, on m'a mis dans un coma. Et en l'espace de 3 jours de mon petit dodo, les 4 membres ont nécrosé. En fait, c'est le choc septique, comme je disais, là, qui m'est arrivé. Et ça, c'est comme la dernière défense là, du corps humain. Ça l'arrête d'envoyer le sang aux extrémités, mais pour le conserver là, aux organes vitaux, ce qui est une très bonne chose.
Mécanisme de survie.
Oui, exactement. Puis c'est merveilleux, sauf que bon, c'est comme ça que les membres ont pu être alimentés en sang et sont morts en l'espace de 3 jours.
Quand même. Et comme tu dis, tu étais dans le coma, donc pas consciente que cette situation-là a escaladé, quoi.
Exactement. Et puis, c'est à mon réveil, moi, que j'ai vu tous les dommages, mais c'est surtout quand mon amoureux m'a dit que j'avais failli mourir. Ça a été ça, le premier choc, c'est de réaliser là, que j'avais vraiment passé à très près, en fait, à 5 % de chance d'y perdre ma vie. Et ça, c'est... Ouais, ça a été pour moi le plus grand bouleversement. Puis j'ai envie de dire tant mieux, parce que à ce moment-là, de réaliser que j'étais en vie, ben j'ai par le même coup constaté que j'avais une très grande chance d'être en vie. Et donc, c'est là-dessus que je me suis concentrée, sur ce positif-là, si on veut, là, au travers de la grosse épreuve qui m'attendait.
Oui, puis grosse épreuve, on peut le dire. Je reste encore un peu sur les détails techniques, dans le sens que tu me parles du streptocoque A ou B, ton conjoint, ton fils l'ont eu, mais en fait, est-ce que pourquoi toi, en fait? Est-ce que tu avais une prédisposition quelconque, ou est-ce que tu aurais pu éviter ça, ou au contraire, non, c'est la fatalité de la vie?
Bien, j'aurais bien aimé que les médecins puissent me renseigner, mais malheureusement, la science n'est pas rendue là encore aujourd'hui pour expliquer pourquoi moi j'ai compliqué. C'était le streptocoque A, parce que le B est un petit peu plus bénin et en d'autres circonstances. Le streptocoque A, c'est lui qui va vraiment tomber agressif chez certaines personnes et se développer en bactéries mangeuses de chair. Okay. Mais bon, ça, tout ça, on apprend ça par la suite. Hein? Même faire la différence entre un virus et une bactérie. Bon, la bactérie, maintenant, je sais que ça prend des antibiotiques. Le virus, ben, on se croise les doigts puis on attend que ça passe. Mais bon, à ce moment-là, j'avais pas tant conscience de ces différences-là. Et comme mon petit garçon et mon amoureux avaient guéri, j'ai vraiment pas pensé qu'à moi, ça aurait pu être plus difficile que pour eux. Mais bon, non, on le sait pas exactement. Par contre, c'est sûr qu'avec un recul, maintenant que je sais faire toutes ces différences-là, j'ai lu mes rapports médicaux, quand j'ai écrit mes livres, j'ai quand même fait des bonnes recherches. Et puis, à force aussi de donner des conférences, de rencontrer des médecins qui me disaient « Oui, c'est bon, comment tu l'expliques, c'est exactement ça. » Ben, j'ai fini par comprendre que quand on a... des symptômes qui sont plutôt virales, donc c'est comme un rhume, on a plus le nez qui coule, on a des éternuements, oui, on peut avoir mal à la gorge et tout ça. Bon, ça, c'est plutôt de l'ordre viral, mais quand c'est qu'un mal de gorge, et c'est ce que j'avais, puis quand même qui supportait bien, mais c'était quand même un bon mal de gorge et aucun autre symptôme au début, là, c'est une bactérie qui est le streptocoque A qui attaque la gorge. Donc maintenant, avec le recul, ben, puis d'ailleurs, parce que ça fait quand même 8 ans que tout ça est arrivé, j'ai eu encore mon garçon a réattrapé le streptocoque une autre fois dans son
suite.
École.
Ah oui?
Oui, et puis là, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite consulté le médecin, il a tout de suite eu des antibiotiques, et ça, ben, ça l'a empêché qu'on se transmette finalement cette bactérie-là et que ça tombe sur la malchance dans mon cas.
Non, vous ne voulez pas que ça arrive une deuxième fois?
Non, c'est ça. Puis c'est pourquoi c'est bon cette question-là, puis que c'est bien de l'expliquer, parce que si les gens ont qu'un seul symptôme, mais là, en plus, avec la COVID, tout devient mélangeant,
oui.
Ben il reste que quand on a un mal de gorge qui persiste, faut consulter notre médecin.
Je trouve ça intéressant, en fait, que tu le nommes, parce que surtout, comme tu dis, avec la COVID en ce moment, on mélange tout, on a peut-être plus peur que d'habitude, puis d'ailleurs, le fait qu'on en parle ensemble, c'est pas de faire peur aux gens, hein, mais c'est de les informer, puis toi, t'es, je veux dire, tu l'as vécu, donc t'es la mieux placée pour en parler. Là, je pense aussi à la douleur, parce que bon, dans ton livre que j'ai vraiment dévoré, qui s'appelle « Se relever sans mains ni pieds », pour ceux que ça intéresse, c'est des éditions de Mortagne.
Oui.
Magnifique livre, Marisol. Vraiment, tu nous racontes toute ta vie. Tu nous partages ton intimité. Tu nous racontes tout ce qui s'est passé à l'hôpital, ta réadaptation, ton opération. Je me demandais, t'as dû développer une énorme tolérance à la douleur, autant physique que mentale.
Oui, j'imagine, par la bande, si on veut, parce que quand on est dans une situation où on n'a pas le choix, je pense qu'à ce moment-là, tout ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur le présent, de passer au travers des secondes, au début, des minutes, des heures, et puis des jours, et c'est peut-être une tolérance, oui, mais en même temps, mon Dieu, que ça faisait mal!
j'allais dire j'imagine, mais non, c'est...
Oui, c'est sûr que physique, là, je repense à toutes les parce que tout s'est fait en étapes, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Et oui, côté physique, j'ai beaucoup souffert. Je sais pas si j'ai développé une tolérance, parce qu'à chaque fois, ça faisait autant mal.
Oui.
Mais en même temps, oui, côté psychologique, c'est tranquillement, mais sûrement, j'ai envie de dire aujourd'hui, ça a été de s'adapter, de tranquillement apprivoiser cette nouvelle vie-là après ça. J'ai eu plein d'aide, j'ai eu heureusement un entourage incroyable autour de moi qui m'a beaucoup aidé à progresser au travers de toutes ces épreuves-là. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de cheminement, en fait, de travail à faire sur soi pour avancer. Et ben les pièces du casse-tête se sont placées un après l'autre. Et j'ai découvert que j'avais une certaine patience dans la vie.
Bonne nouvelle!
Oui, c'était vraiment pas une qualité principale chez moi.
OK, mais parce que oui, hein, moi aussi étant handicapée, la patience et la persévérance, c'est quelque chose qu'on apprend de façon naturelle.
Oui, puis qu'on a en même temps, comme on disait, on n'a pas le choix. Si on veut arriver à faire quelque chose, je pense au début, quand je voulais simplement vider puis remplir le lave-vaisselle avec mes prothèses et tout ça, et au début, c'était même pas un projet, parce que je le savais que ça serait extrêmement long. Mais plus ça avance, plus on devient un peu meilleur, si on veut. On s'habitue, on s'adapte, on devient plus efficace. Et là, j'ai osé. La première fois, ça a pris quand même 45 minutes. Mais aujourd'hui, j'y arrive en 5-10 minutes.
Oh, quand même!
Oui, c'est ça, c'est la persévérance. C'est dans l'entraînement, c'est à force de répéter les mêmes gestes, de refaire les mêmes opérations qu'on devient meilleur, plus efficace et donc plus rapide, et qu'on est capable d'en faire plus finalement dans notre journée. Mais il faut pas penser à y arriver du jour au lendemain. Tout ça prend son temps. Il faut laisser le temps au temps.
Eh oui, puis c'est comme n'importe qui, quand on découvre, on apprend une chose pour la première fois, on veut tout. Et d'ailleurs, tu parles dans ton livre aussi de la notion d'invincibilité. On veut être invincible, on croit qu'on peut tout faire tout de suite, mais non, toi, t'as appris à être plus dans le moment présent et vraiment à te ramener dans ton corps physique.
Oui, effectivement, et puis ça, le moment présent, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je me le rappelle des fois parce que je suis aussi pris dans tous mes projets. Je fais des illustrations, des livres pour enfants, je fais peinture, j'ai repris beaucoup d'activités. Bon, là, les conférences sont mises sur pause, je souhaite temporairement, mais
oui.
Il reste que dans tout ça, j'y suis arrivée à me reconstruire une belle vie, une belle qualité de vie, mais il reste que je me parle à moi-même parfois, puis je me dis « Wow, OK, il faut prendre une petite pause, il faut prendre le temps de profiter des petites choses, comme là, l'été achève déjà. »
Oui, c'est trop rapide.
Hein? Profiter des belles journées d'été.
Mais en parlant de profiter des choses qui font du bien, allons faire une petite pause, le temps d'écouter une petite chanson, et on revient tout de suite après.
Super!
Dire tout monde pense tout bas. Je sais pas ce que je préfère. Même si le ridicule ne tue pas, parfois vaut mieux se taire.
C'était l'art et la manière de Christophe Maé. Il part de l'art, de la manière, du savoir-faire. Plein de choses que Marisol Saint-Onge a aussi.
En tout cas, l'art, oui.
Oui, l'art, oui. Ben, parce que tu es artiste peintre et je veux absolument que tu m'en parles parce que tu étais peintre bien avant d'avoir ton accident, si je peux l'appeler comme ça.
Oui, exactement.
Comment ça s'est passé, en fait, quand tu as eu tes prothèses, je veux qu'on en parle aussi, mais quand tu as repris tes pinceaux pour la toute première fois avec tes prothèses?
Ah, ça a été un grand sentiment de satisfaction et je m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. J'étais encore en réadaptation, là, tout s'est passé avant que la première année se termine après mon accident, effectivement, on peut l'appeler que ça comme ça. Mm. Et puis, je pensais que ça allait être très triste. En fait, mon ergothérapeute avait eu une très belle idée, m'avait proposé de peindre à même les locaux avec eux pour un petit peu me guider, comment bien placer ma prothèse, mon pinceau. Et j'avais dit, c'est une super belle idée, c'est gentil, j'apprécie que, tu sais, qu'on soit, en fait, fixé sur les passions des gens.
Oui.
pour les aider à traverser au travers des épreuves. Je trouvais ça super. Mais je voulais vivre ce moment-là toute seule. J'avais besoin d'être chez moi. Je voulais être entourée des miens pour cette étape-là. Parce que j'étais certaine que j'allais pleurer.
Ouais.
Moi, j'étais sûre que j'allais réaliser à quel point c'était fini, que je pourrais plus peindre comme avant. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait des grandes murales, grand format. Déjà, là, il y avait un deuil là-dessus à faire. Mais aussi, j'avais un trait de pinceau très précis, un peu le style cartoon, si on veut. J'entoure tout le temps un peu les objets avec un trait noir. Et ça a toujours fait partie de mon style. Et j'étais sûre que j'allais pas y arriver. Bon, peut-être faire une toile plus abstraite, aller dans une autre voie.
Style, oui.
Oui, ça aurait pu être peut-être possible, mais pour moi, c'est pas ce que je recherchais, mais j'avais peur d'avoir de la peine. Et puis, quand j'ai commencé à le faire chez moi, ça a été merveilleux. J'ai pris plaisir en partant.
Mm.
Et quand j'ai vu le résultat, en fait, tout au long de mes traits de pinceau, j'étais surprise. Je me surprenais moi-même, puis je me disais, wow. Et j'ai pleuré, mais là, de joie.
Oh, que c'est beau. Ça m'en donne des frissons. Et qu'est-ce que tu as peint? Quelle a été ta première toile?
En fait, j'ai voulu refaire ce que j'avais fait à même le Mognon, un petit dessin. Faire une histoire courte, j'ai décidé, moi, de pas tout de suite aller en réadaptation entre l'hospitalisation pour pouvoir prendre un temps là chez moi pour accuser tout ça. Ça donnait bien, c'était l'été. Mes enfants étaient en congé. Et je m'étais dit, je vais aller en réadaptation en septembre, quand eux recommenceront l'école. Puis on va pouvoir prendre le temps là, de serrer les coudes ensemble. Et là, ben, mon amoureux commençait à être un petit peu impatient parce que lui, il me disait, c'est sûr que tu vas peindre un jour. Puis bon, je le croyais pas du tout. Mais il m'avait attaché un crayon après le Mognon. Très, 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 là, fixé avec pratiquement du duct tape, très solidement, là, pour pas que ça bouge. Et là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire mon nom. Hein, c'est quand on perd le privilège de signer ses propres documents. Il y a comme un déclic qui se passe. On dirait qu'on n'est plus soi-même, qu'on n'a plus droit à être un citoyen comme les autres.
Oui, parce que c'est ton identité en tant qu'artiste peintre.
Tout à fait. Et quand j'ai vu que ma signature ressemblait à ma signature d'avant, puis qu'en plus, c'était lisible, là, je me suis laissée aller à dessiner une petite fleur.
Mm.
Puis bon, c'est sûr qu'elle était en noir et blanc, parce que j'avais juste un crayon d'attaché après le Mognon.
Oui, un seul choix.
Mais quand Alain a vu ça, Alain, c'est mon conjoint, il a dit, mais là, elle est trop belle, ta petite fleur, là, faut y mettre la couleur. Puis on avait pris la peine de tout détaper sur des plaies, là, fraîchement guéries, puis de mettre quelques couleurs. Puis c'est là que ça l'a fait, ce petit dessin-là, en couleur. Plus tard, là, quelques mois plus tard, quand je suis arrivée là, pour repeindre une toile, ben, je me suis dit, tiens, je vais me servir de ce dessin-là qui, pour moi, était très porteur d'espoir.
Ouais.
Et c'est là que je vais le repeindre en grand. Donc, c'est un peu comme des orchidées, c'est un pot de fleurs. C'est tout simple, mais c'est des fleurs qui, pour moi, représentent ma famille, qui représentent la possibilité, justement, de refleurir à nouveau.
Ah,
là.
Que c'est beau, et cette peinture-là, on la voit hein, dans ton livre.
Oui, puis elle s'appelle Renaissance.
Ben, voilà, elle porte tout son message assez puissant. Puis Marisol, tu me parles de ton conjoint, de tes enfants. Ils sont extrêmement importants pour toi. T'en parles tout au long de ton livre. J'ai envie de saluer ton conjoint Alain parce que, je veux dire, l'histoire d'amour que tu nous partages, ça nous transperce tellement, c'est beau. Tu racontes qu'il a été avec toi tout au long de ton parcours. Il n'a jamais arrêté de t'aimer et vice-versa, toi non plus, évidemment. Mais j'ai envie que tu me parles de sa proposition de mariage.
Oh,
les circonstances.
Oh, c'est tellement cute dans le sens où quand je me suis réveillée du coma, on retourne un petit peu encore en arrière et moi j'ai de la difficulté à comprendre. C'est là qui m'explique que j'ai failli mourir et pas longtemps après dans la même journée. Parce que bon, j'étais intubée, c'est important de le mentionner. Je pouvais pas moi parler avec ce gros tube-là dans la gorge. Et lui, bon, monologuait, me parlait, m'expliquait tout ce qui était arrivé. Il voyait bien dans mes yeux que je réagissais, mais les médecins lui avaient pas... en fait, personne ne pouvait confirmer que tout mon cerveau était bien intact, que tout était là. Et il s'est dit, tiens, on va établir un code, on va se parler avec... Tu vas pouvoir me répondre en clignant des yeux. Et spontanément, il me dit, j'ai envie de me marier avec toi, est-ce que tu veux te marier avec moi? Et là, c'était quoi dans le code? C'était un clignement d'yeux pour dire oui et deux pour dire non. Il faut que je fasse vraiment juste un clignement d'yeux. Ça fait 18 ans qu'on était ensemble. Pour nous, le mariage, c'était pas du tout une priorité parce que pour nous, c'était d'avoir nos enfants qui étaient ça, ce beau contrat-là d'union, de deux couples. Et bon, on a toujours eu plein d'autres priorités, autant financières qu'en temps. On a toujours été passionnés par plein de projets. Donc, toujours remettre hein, à plus tard ce projet-là qui, encore aujourd'hui, est remis à plus tard. Mais à ce moment-là, ça a été tellement merveilleux. Et bon, naturellement, moi, je me suis sentie très choyée. Et de le voir amoureux autant qu'auparavant, qui me regarde avec les mêmes yeux aussi qu'avant, ben je me suis sentie la même personne. Et là, ben il m'a quand même posé une question pour valider si je savais vraiment ce qui était oui et ce qui était non. L'histoire, en fait, je me souviens plus du tout, et lui non plus, quelle était la question pour que je dise non. On se rappelle juste du bon oui que j'ai dit à ce moment-là.
Ah, mais c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui importe.
Oui.
On a quelques minutes encore ensemble. J'ai des tonnes de questions à te poser encore, mais je me dis, ceux qui vont vouloir en savoir plus, évidemment... Franchement, je vous recommande fortement d'aller lire ton livre, Marisol. Je le répète, se relever sans main ni pied. Tu nous as parlé tout à l'heure de... Bon, tu as appris à faire la cuisine avec tes prothèses. Donc toi, du jour au lendemain, tu découvres ce fameux monde des prothèses.
Oui.
Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Est-ce que... Puis les membres fantômes aussi en font un peu partie. Est-ce que tu ressens, toi, des douleurs fantômes?
Heureusement, j'ai pas tant de douleurs fantômes. Ça va m'arriver, mais c'est très épisodique. Là. C'est une fois ou deux fois par année, mais on s'en rappelle parce que, en tout cas, dans mon cas, c'est très, très, très douloureux. Je pense que ça l'est pour tous ceux qui en vivent et ça peut durer deux heures et demie et même plus. C'est un peu comme des contractions de femmes enceintes, dans le sens que c'est même aux 2 minutes, j'aurais envie de dire, plus qu'aux 5 minutes. Il y a une douleur vive, là, intense, comme si on jouait avec mes nerfs sur le dessus de mon pied, comme on joue de la guitare. Et là, c'est très souffrant et tout d'un coup, tout arrête. Puis là, ben, moi, je pense que c'est terminé, enfin. Et ça recommence deux minutes plus tard. Et ça, pendant, là, comme je disais, deux heures certains. Il faut apprendre à vivre avec ça. C'est sûr que moi, je suis quand même chanceuse parce que c'est très, très rare. Mais les sensations fantômes... Celles-là, je les ai continuellement. Et là, chaque fois qu'on me pose une question sur mes membres fantômes, ben en ce moment, ça vibre.
Bon, je suis désolée.
Non, pas du tout. Non, moi, ça me fait plaisir. En fait, je les aime, ces membres fantômes-là. J'ai passé 34 ans avec mes deux bras, mes deux jambes. Donc, à un moment donné, il y a un hypnologue qui m'avait contacté là, suite à une publication sur dans un de mes réseaux sociaux. J'avais parlé justement de ces douleurs-là. Il m'avait dit, écoute, on peut te faire oublier tes membres par l'hypnose. Oh, j'ai dit tellement non, ça, j'ai pas assez mal pour aller vers cette solution-là. Et c'est surtout qu'ils sont aidants pour justement tout l'appareillage prothétique, de pouvoir avoir les membres fantômes, ça m'aide à les opérer, mes prothèses.
Ah, bien.
Puisque je fonctionne avec du myoélectrique, donc ça va capter les contractions musculaires et pour faire... En fait, bouger le bon muscle, ben c'est un peu comme si c'était ma main fantôme qui bouge. Et même chose pour mes jambes, même si c'est pas du tout myoélectrique, mais là, c'est très physique. Et je pense que tu portes aussi une prothèse, donc tu sais de quoi je parle.
Oui, complètement.
C'est très physique, mais ça reste que moi, mon petit pied fantôme, après là, peut-être un 5-10 minutes de marche, oh, il s'en va se placer tout magiquement dans mes souliers. Et là, j'ai une démarche beaucoup plus assurée, plus naturelle aussi. Et ça, ben c'est juste bénéfique finalement. Donc, je les utilise plus que d'autres choses.
Que c'est beau. J'adore que tu me parles de, oui, le pied vient se placer à sa place, comme quoi le corps humain et le mental sont tellement bien faits, ils sont tellement puissants. Il nous reste à peine 2 minutes. J'ai envie de te demander, en fait, pour donner un message aux personnes qui nous écoutent, parce que tu donnes des conférences, tu aides beaucoup les gens à s'accepter tels qu'ils sont. Tu parles dans ton livre de quand tu te regardes, en fait, quel... regard est-ce que tu poses sur toi-même quand tu te regardes dans le miroir?
Oh, c'est sûr qu'au début, c'est tellement frappant que je ne pouvais pas en vouloir à personne de me regarder différemment. Moi-même, c'était frappant, c'était très particulier de voir ce reflet-là complètement transformé. Mais en même temps, moi, je me suis dit, ça ne donne rien de me cacher. C'est pas vrai que je vais rester chez moi et arrêter d'aller à l'extérieur parce que les gens vont me regarder. Et on dirait que parce que moi, je l'ai accepté rapidement quand même, puis avec le sourire aussi. Ben, quand je croisais des gens, moi, j'étais tellement heureuse de juste aller à l'épicerie que les gens que je croisais, je leur faisais un beau sourire. Et eux me répondaient par un sourire. Parce que je pense que je dégageais, et je dégage encore aujourd'hui encore plus, une assurance, une confiance en moi. Et je me suis toujours dit, si ça pose problème, ben ça va poser problème aux autres, pas à moi. Et donc, ça sera aux autres à régler ce problème-là avec eux. Et donc, j'ai cette attitude-là et ça me sert très, très bien parce qu'honnêtement, j'en ai pas de regard. Ou en tout cas, je les vois pas.
Non, c'est ça, on les voit plus parce que tu mènes ta vie, quoi.
Exactement, et sans souci, et aussi avec passion, si je viens rejoindre le titre de ton émission.
Le titre de l'émission.
Exactement, c'est ça qui est le plus grand moteur pour avancer.
Eh bien, franchement, Marisol Saint-Onge, je suis enchantée d'avoir fait ta connaissance. J'espère avoir la chance de te rencontrer en personne un jour. Merci infiniment.
Ça serait un plaisir. Merci beaucoup pour la belle entrevue. C'est super le fun.
Merci. Et bien, merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier, Claire Guérin, Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller sur le site canalm.vusetvoix.com pour nous réentendre. Et je vous dis à la semaine prochaine.